entre du Mouchmaï au Kachin oriental. J'ai réfléchi totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Les mécanismes internes de gestion des conflits a été plusieurs fois mis à contribution dans la gestion des conflits en République démocratique du Congo. Les uns ont connu un aboutissement heureux, tandis que les autres ont carrément échoué. C'est une expérience qui n'est pas propre à la RDC, car la notion de la palabre africaine est partagée avec d'autres pays africains. Elle reste comme mode idéal de gestion des conflits au niveau local, au lieu de toujours recourir aux médiateurs étrangers. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Julie Fezabongonda et Sandar, Jean-Claude Siala, la mise en onde de Pierrot et la Mégie, à la réalisation de cette émission supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 73 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Selon une analyste, le terme médiation provient de mot latin qui traduit pratiquement le verbe s'imposer, s'interposer. Il s'agit donc d'un processus de résolution des conflits qui vise à apporter une solution en aidant les parties à discuter des options possibles et à parvenir volontairement à un accord de paix sans davantage recourir à la force ou à l'autorité d'une solution de droit. Mais la question qui se dégage, quels sont les critères pour le bon déroulement de la médiation et surtout pour sa réussite? Nous avons dans ce studio Monsieur Basile Poteau, qui est professeur docteur, expert en intelligence artificielle et gestion des projets. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur.
Voilà, alors Basile, vous êtes avec nous dans ce studio d'entrée des jeux. Quels sont les critères pour le bon déroulement d'une médiation?
La médiation, en fait, c'est en elle-même, c'est un processus, bien sûr. En fait, de par son étymologie, qui dit médiation, dit fortement ce que vous disiez tantôt, dans les cadres de la philosophie thomiste, en fait, parce que ça remonte du Moyen-Âge. Médiation, c'est, il y a là, dans le mot médiation, il y a le mot latin médium. C'est l'entre-deux. Parce qu'en fait, Thomas d'Aquin posait que l'intelligence et la vertu, la sagesse, se trouvent dans l'entre-deux. Donc voilà, c'est une question d'éviter de verser dans les extrêmes, et en extrapolant notamment dans les domaines viticoles, pour ceux qui adorent le vin, on dit in vino veritate, la vérité dans le vin, mais le vin, bien sûr, est à prendre avec modération. Par contre, dans les domaines qui nous concernent, par rapport à la prévention et gestion des conflits, la médiation est en fait un outil stratégique de veille citoyenne. Doit garantir en fait le vivre ensemble, la paix sociale et garantir les développements durables d'un pays. Avant d'entrer en matière à titre illustratif, je voudrais relater le fait que quand on procède à une analyse socio-économique à travers le monde entier, notamment à travers le monde occidental, l'Allemagne aujourd'hui en Europe occidentale tire la locomotive économique. Et tout simplement pour la bonne raison que, avec le temps, il s'est développé un mode de concertation sociale, la médiation notamment, qui fait que, effectivement, en Allemagne, tu as beaucoup moins de grèves qu'en France ou en Belgique. Et voilà. Donc, la médiation est en fait à situer, ça c'est dans le contexte général, est à situer dans
un outil stratégique de veille citoyen qui vise à garantir le développement durable d'un pays. Mais quels sont les critères de bon déroulement d'une médiation?
Dans la médiation, en fait, la médiation est en fait tout un art qui s'est diversifié. En général, en termes de gestion de conflits, en fait, on dit que à chaque problème une solution, à chaque problème une médiation. Donc après il faut à chaque fois une solution ad hoc. Et en l'occurrence, la médiation c'est professionnalisé. En fait, dans des universités étrangères, il y a des diplômes à créer pour être médiateur. Mais en fait, normalement, dans la méthodologie pour mener la médiation, il y a notamment quatre moments. En fait, on peut séquencer quatre moments. Le premier moment, c'est en fait la médiation implique d'abord les concernés. On n'a pas besoin des représentants, d'un avocat. Donc la médiation, dans la toute première séquence, fait intervenir les personnes concernées. Deuxième dynamique, c'est
parce que quand vous dites dans la médiation, on n'a pas besoin des représentants, des personnes qui représentent les deux parties en conflit. Nous prenons par exemple les cas de négociations directes qui se font aujourd'hui en RDC sous l'office de la CENCO. Voilà, on se rend compte que il y a d'une part la partie de la majorité et de l'autre côté le rassemblement. Donc pour vous, c'est une démarche qui est biaisée un peu au départ, en amont.
Oui et non. En fait, les partis, en fait, bon, disons. Quand je dis que, effectivement, donc, la première phase de la séquence du processus de médiation fait interférer les personnes concernées, les personnes elles-mêmes. Évidemment, contrairement au, en fait, on n'a pas besoin des représentants. Habituellement, quand l'affaire concerne des personnes, on fait intervenir des avocats. Mais là, dans un conflit interpersonnel, entre politiques, en fait, ça c'est de manière générale. La démocratie représentative, depuis quelque temps, pose problème. On peut se référer notamment au cas américain. En fait, il y a là un délitement, un manque de confiance de la population par rapport à la classe politique, à l'élite politique. Cela est d'autant plus vrai en ce qui nous concerne, notamment le Congo. En fait, c'est quand on considère la dérive inflationniste des partis politiques.
Voilà, c'est un peu concret.
Donc, en fait, aujourd'hui
en Afrique, est-ce qu'il y a eu des médiations à l'interne, donc quand nous disons des mécanismes endogènes, et qui ont marché, et d'autres par contre n'ont pas marché. Est-ce que vous pouvez nous citer les cas où on parle du Rwanda, la Côte d'Ivoire tout récemment, le Sénégal, il y a beaucoup de pays africains qui, en fait, la palabre africaine a constitué un mode idéal pour la gestion des conflits. Et chez les uns, ça marchait, chez les autres, ça avait des difficultés. Alors, si on peut faire un regard panoramique.
Tout à fait. En fait, un des pays qui a marqué ma histoire, c'est le Bénin. Début 90,
juste après la conférence souveraine.
Voilà, tout à fait. Et évidemment, nous on avait embrayé par la suite. Le Bénin reste en fait un cas emblématique, parce qu'effectivement, là, c'est une démarche qui a été endogène et qui a abouti à un processus démocratique certain.
Au Congo-Brazzaville, ça n'a pas marché, toujours avec la même méthode, la conférence nationale souveraine, et ça a abouti à une élection d'un président, et par après, ça a dégénéré.
Chez nous, pareil.
En Centrafrique.
Ouais. Chez nous, en fait, il y a certainement des acquis. La FNES, des acquis, mais certains. Mais malheureusement, c'est un parcours qui a été court-circuité. Tout le monde me connaît l'histoire. En fait, il y a une guerre qui a court-circuité en fait, la dynamique. Mais j'aimerais en fait revenir par rapport à votre première question. En termes de représentation, par rapport à l'histoire récente du pays, je relève notamment le fait que on en est pour le moment à un processus de dialogue en deux temps. Il y a un premier temps, dialogue de Mongaliema. Et pour le moment, on est en dialogue de. Bon, que, je pense appeler. Je pense que. Tout à fait. Ok. La dynamique est tout à fait louable, elle est encouragée. Et encore, c'est mené par la CENCO, qui fait preuve d'une intelligence tout à fait particulière. Et, d'une, en fait, la démarche est tout à fait positive. En répondant au début, je dis que, en fait, effectivement, il y a des doutes que la démarche puisse aboutir de la meilleure manière, d'autant que il se pose de manière certaine, en fait, la forme, le format juridique, en fait.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, je vais se rappeler un peu.
Oui, rapidement, rapidement, parce qu'on va ouvrir les standards.
Je vais se rappeler un peu. En fait, ok, il y a dialogue, il y a évidemment des débats menés, des propositions à débattre, mais in fine, on aboutit à quoi ? À des recommandations ?
C'est à un accord, comme je l'ai dit.
Mais d'accord, bien sûr.
Quand on engage une médiation, les parties sont obligées de sortir de ces négociations avec un accord.
Alors, tout à fait d'accord, voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, cet accord-là, à quelle force a-t-elle une force confiance, a-t-elle une force de loi? Est-ce que le cadre de l'accord est-elle une assemblée constituante?
C'est une exception, c'est une exception, c'est une rencontre exceptionnelle. C'est par rapport à le cadre légal est là, la Constitution par exemple. Mais quand, comme je l'ai dit, c'est un processus de la recherche de solutions de conflit et tout part de la base. Les gens sentent les besoins de pouvoir s'entendre. Donc on va revenir quand même à vous, à l'autre, professeur Basile Proto. Vous êtes professeur, docteur, expert en intelligence artificielle et gestion des conflits. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous abordons la question du mécanisme interne de gestion des conflits qui a été d'ailleurs plusieurs fois mise à contribution dans la gestion des conflits en RDC et tout comme en Afrique. Alors, cette expérience a marché chez les uns, chez les autres, peut-être ça a connu un tout petit peu de difficultés. Alors, mais malgré cela, néanmoins, elle reste comme mode idéal de gestion des conflits au niveau local au lieu de toujours recourir aux médiateurs étrangers. Et d'ailleurs, pendant cette période où se tient le dialogue inclusif de bons offices de la CENCO en RDC. Donc je crois qu'il y a un devoir patriotique de pouvoir organiser également ces débats dont vous pouvez participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Pacifique, vous nous avez rejoint, vous êtes à Lubumbashi, ingénieur Valérie Akindou, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Pacifique, bonjour. Pacifique, vous êtes avec nous. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Pacifique. Ingénieur Valérie, vous nous avez rejoint ?
Oui, je suis avec vous, bonjour.
Voilà, ingénieur Valérie, c'est vrai, vous avez suivi notre invité tout à l'heure qui parlait d'un outil, la médiation aujourd'hui, un outil stratégique d'éveil citoyen, mais aussi l'occasion pour garantir le développement durable d'un pays. Alors, par rapport à tout ce que vous avez fait comme recherche et comme vous l'avez dit dans votre message, est-ce que vous pouvez faire une analyse comparative aujourd'hui avec la palabre africaine, mode idéal de gestion des conflits en Afrique, au Rwanda, au Sénégal, au Bénin et dans plusieurs pays du continent. Est-ce que ce mode a marché?
Oui, merci pour la question. D'abord, je constate que nous avons beaucoup reculé par rapport aux anciennes époques. Je me rappelle lorsqu'on avait seulement les systèmes du Royaume Congo, Empire Luba, Empire Lunda, nos chefs coutumiers, ils tranchaient des problèmes, ils trouvaient solution à des problèmes. Puisque nous qui avons été dans des grandes écoles, aujourd'hui nous présentons des licences en droit, en économie, en politique, relations internationales, mais pour ne pas trouver de solution. Alors, pour qu'il y ait médiation, c'est qu'il y a au départ un conflit. Et aussi, en deuxième phase, c'est que les deux personnes, ou les deux ou plusieurs personnes, bref, les personnalités en conflit, ne se sont pas mis d'accord. C'est ainsi qu'ils vont chercher les recours d'une autre personne. Alors, pour réussir, il faut d'abord commencer par la volonté des personnes en conflit qui doivent bien privilégier l'absolu au-dessus des intérêts privés. Mais lorsqu'on va dans des négociations pour défendre sa thèse, pour rouler les autres, alors là, on ne cherche pas de solution. Mais si on y va parce que toute société a des objectifs. Si c'est un conflit au niveau du milieu du travail, on connaît les objectifs d'une entreprise. Si c'est une famille, on connaît les objectifs d'une famille. Si c'est en politique, on connaît les objectifs d'un pays. C'est lorsque nous allons en négociation pour imposer sa volonté. Avec l'esprit tel que si moi je n'impose pas ma volonté, eh bien, tout s'arrête. À ce moment-là, on ne doit pas faire avancer la médiation. Mmh. Deuxièmement, lui-même le médiateur doit être compétent. Qu'est-ce qui signifie être compétent? Parce que lui n'est pas partie prenante au conflit. Lui, il va chercher à concilier les deux personnes afin qu'ils arrivent vers l'absolu et qu'ils comprennent que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. À ce moment-là, Le médiateur lui-même doit être techniquement compétent. Il doit connaître la matière autour de laquelle ou au sujet de laquelle il est en train de faire aboutir la, les négociations. Si c'est un problème politique, il doit être aussi un politicien. Il doit connaître les enjeux pour comprendre que voilà, telles sont les aides pour telle ou telle raison, telle autre, voilà ce qui les divise, comme ce que vient de faire la CINCO. C'est un travail de haute qualité. La CINCO a dégagé des points de divergence et des points de compétence. C'est un travail facile. Et après, elle dit voilà, voici le point de divergence, je vous appelle, vous les parties en conflit, venez dialoguer. Et elle a convaincu chacune des parties pour que tout le monde se retrouve autour de. Autour d'une table. Alors, en dehors de la compétence technique, donc en dehors de la compétence, nous voyons aussi la crédibilité. Si le médiateur n'est pas crédible, cette crédibilité passe par l'impartialité. Si le médiateur est partiel, à ce moment-là, il ne fera pas l'unanimité des parties au conflit.
Oui, ingénieur Valérie, je sais que vous avez quand même mené beaucoup de recherches quant à ce, mais on sait tout de même que les auditeurs ont besoin quand même d'un éclairage sur certains points, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des analystes ou des experts qui ont catégorisé les médiateurs. Aujourd'hui, quand vous évoquez dans votre clé de réussite aussi la compétence du médiateur, moi je vous dirais, il y a également parmi les médiateurs, celui qu'on appelle le facilitateur, celui-là qu'on appelle le formulateur, et un autre qu'on appelle le manipulateur. Alors les trois, ils sont tous des médiateurs, mais chacun joue un rôle particulier. Donc quand il s'agit par exemple des facilitateurs qui favorisent uniquement la communication entre les différentes parties, tandis que le formulateur propose des solutions aux protagonistes, comme vous l'avez dit par exemple, et puis il y a le manipulateur quant à lui avance non seulement des propositions, mais il est aussi censé posséder des capacités de persuasion liées notamment à sa position. Voilà un peu, est-ce qu'à ce niveau, vous pensez que ce que joue aujourd'hui la CINCO s'agit d'une facilitation? S'agit-il d'une formulation ou s'agit d'une manipulation? Voilà. On va quand même écouter, il y a notre invité qui veut réagir rapidement à cette préoccupation directe.
Voilà, en fait, deux points, juste à ma, deux mises au point. La toute première, effectivement, le médiateur est en fait une certaine personne. Qui n'est pas parti à ma présence. Et je rappelle vaguement, très rapidement, les quatre séquences dans les processus de la médiation. Première étape, c'est effectivement la mise en présence des concernés. Deuxième séquence, moment important, il faut définir le litige. Là, ça pose problème. C'est ce qu'a fait avec le partenaire la CINCO. Troisième moment, c'est un moment qui est tout à fait déterminant, un moment très, très significatif. C'est le moment des co-constructions. C'est un processus de co-construction de la décision. Co-construction, c'est-à-dire, en fait, c'est un travail collectif. Et en effet, le moment final, c'est l'accord.
D'accord. Alors, c'est que c'est la CINCO particulièrement, c'est une facilitation, c'est une manipulation ou c'est une formulation.
Non, en fait, on ne reste pas dans la cécarillie mathématique, en fait. Non, ce que fait la CINCO, tout à fait apprécié. C'est même avec la compétence. La CINCO a défini le litige en question. Mais la CINCO, en fait, dans le processus, pour le moment, on en est à un moment de co-construction de la décision.
Co-construction. Alors, Valérie, réaction?
Oui, tout à fait, oui. Bon, la CINCO joue d'abord à la
facilitation.
Mais je dois vous dire qu'en pratique, même si on est facilitateur, cela n'exclut pas que l'on puisse formuler et que l'on puisse aussi peut-être certiader, donc manipuler. Mm-hmm. Mais au moins, il y a un aspect qui va jouer de plus. Mais très souvent, le médiateur doit plus être un facilitateur, mais au moins, en écoutant les uns et les autres, il se dit, bon, vous voilà, il y a ça, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon de formuler? Au lieu de dire que moi je dis ça. Mais vous ne pensez pas que vous allez tous vous dire la même chose quand l'un dit ceci et l'autre dit, mais c'est peut-être un problème d'entendement et puis les gens vont avancer. Donc
Merci beaucoup, Général Valérie. Okay. Il est temps peut-être de retrouver Pacifique. Pacifique, vous êtes avec nous. Bonjour, Pacifique.
Bonjour, Roger.
Alors, vous venez de suivre Général Valérie qui a posé trois conditions pour la réussite d'une médiation, notamment la volonté des parties de privilégier l'absolu au-delà des intérêts personnels. Deuxièmement, les médiateurs doivent avoir une certaine compétence pour arriver à comprendre réellement les enjeux. Et troisièmement, la crédibilité de celui qui fait cette médiation. Est-ce que vous pensez que ce sont là des critères qu'on peut mettre dans parmi les critérium idéal pour la réussite d'une médiation endogène?
Merci Gérard, je salue également les invités et tous les auditeurs qui nous suivent pendant ce moment, d'autant plus que cette émission doit également être pédagogique parce que les gens qui nous suivent doivent déterminer aussi quelque chose. Mmh. Je suis tout à fait d'accord parce que le médiateur lui-même doit d'abord être capable de maîtriser les sujets. S'il ne maîtrise pas les sujets, Gérard, je crois qu'il pourra bien faire parmi ses critères. Il y a également, il doit être confident ou discret. Il doit aussi être critique, il doit être positif, il doit avoir aussi le plus grand critère, c'est l'esprit d'analyse. Pourquoi est-ce que nous disons l'esprit d'analyse dans la gestion des conflits? Parce que dans la gestion des conflits, il faut se diviser ça en trois. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait la gestion des conflits, on veut tout simplement s'arrêter au niveau de gestion des conflits. Or, il y a la gestion des conflits, vous devez passer pour entrer dans la transformation des conflits et aussi dans la résolution des conflits. Alors, quand vous avez ces trois éléments, et donc vous avez beaucoup plus avancé, et vous pouvez maintenant pouvoir prétendre avoir un résultat. Alors, si on prend par exemple le conflit pour un modèle de l'avocat, dans n'importe quel conflit GR, il y a trois niveaux tout simplement principaux que l'on doit analyser. Le niveau superficiel, ce que disent publiquement les parties en conflit et qui montrent la position des uns et des autres, qui est symbolisée par la peau de l'avocat. Alors, le deuxième niveau, c'est le niveau intermédiaire. Ce niveau intermédiaire qui est représenté, qui représente ce que nous voulons, donc les intérêts symbolisés sur les décès par la pulpe ou de l'avocat ou alors la peau. Et le troisième niveau, enfin, c'est le niveau profond qui représente les vrais besoins des parties en conflit. Donc, ce niveau est représenté par le noyau de l'avocat. Un médiateur, lorsqu'il s'arrête tout simplement au niveau superficiel, là où les gens disent non, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Mais en réalité, ce n'est pas ça le vrai problème. Souvenez-vous, GR, quand les gens étaient partis à San City. Mais à un certain moment, les autorités sud-africaines commençaient à pénétrer pour dire, mais écoutez, les Congolais viennent ici, ils mangent notre, ce que nous avons produit et tout, ils vont trouver une solution. Et on avait trouvé une solution pour dire, si vous faites les passages de pouvoir ici, vous allez voir que ce problème ici va se terminer. On a proposé ceci. Il y a des autres qui viennent et disent, non, écoutez, vous les avez proposés, alors nous, et on a fait 1 plus 4 et les discussions ont trouvé une solution. Exactement parce que c'était ça le conflit, le niveau profond, c'est le noyau. Donc il faut aller jusqu'au noyau. Moi je crois, ce que c'est qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment un travail salutaire en tant que un médiateur interne que nous devons saluer. Vous voyez que maintenant, il y a l'inclusivité, les parties sont là. Et maintenant, nous voulons voir les générosités du médiateur. Mmh. Il va se pencher sur quelle approche. Parce qu'il faut qu'on parle de gestion des conflits, il faut aussi tenir compte de l'approche. Est-ce que c'est la conciliation? Est-ce que c'est le dialogue? Est-ce que c'est la négociation? Est-ce que c'est la médiation? Est-ce que c'est l'arbitrage ou la justice? Alors, sans pour autant ne pas reconnaître ce qui a été fait à la cité de Lumière, nous disons tout simplement qu'à un certain moment, le facilitateur a confondu les approches. C'est selon moi, il a vite commencé à utiliser l'arbitrage. Parce que lui-même avait dit que c'était qu'il dit qu'on ne pouvait pas passer ou alors organiser les dialogues sans qu'il était dit. Et encore, lui-même s'est rendu compte qu'il le fallait. voyez, on a organisé ces dialogues pour des crédits. Ça pose encore un problème.
Donc,
vous voyez là où l'islam se pose un problème.
Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien pour vous, c'est qu'il faut prendre également en compte, c'est l'approche qu'on utilise dans la médiation interne pour que ça marche. Parce que c'est vrai, le problème de crédibilité, ça pourrait également se poser parce qu'on dit, bon voilà, les médiateurs, c'est pacifique. Les pacifiques que je vois, qui partagent un verre avec moi, comment faut-il avoir cette crédibilité de ce qu'il va faire? Donc ça demande un peu l'approche à utiliser pour aider les uns et les autres. Alors Isaac, vous êtes à Bukavu. Bonjour Isaac.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs.
Alors Isaac, vous venez de suivre vos prédécesseurs qui ont évoqué la clé de réussite de médiation, en comparant bien entendu ce qui s'est fait aujourd'hui. Et est-ce que vous avez une idée sur ce qui s'est passé par exemple à Arusha avec la palabre africaine et dans d'autres pays africains, là où ça marchait, et nous présenter également quelques témoignages dans certains points où il y a eu des difficultés pour que finalement la médiation endogène puisse marcher comme il faut?
Je voudrais beaucoup plus m'atteler sur le cas de notre pays, la RDC. Et je le dis dans mon message que la réussite, autrement dit la solution négociée aux conflits armés, ne dépend presque pas de la médiation, mais dépend beaucoup plus des enjeux du moment. Si vous regardez l'histoire des conflits de notre pays, les négociations qu'il y a eu parce que la RDC est riche dans les histoires de ces gens-là, vous allez voir que la solution, dans beaucoup de cas, devait dépendre des enjeux du moment. La CNS, par exemple, ça n'a pas réussi parce que Mobutu était en position de force. Il a ignoré les résolutions de la CNS et la transition qui aurait dû durer 2 ans a duré 6 ans. Jusqu'à ce que la guerre est venue multiplier tout par 0. Il y a eu la guerre de 96-97. La négociation qu'il y a eu dans le bateau Utemita de l'Afrique du Sud sous la médiation de Nelson Mandela n'a pas réussi parce que Laurent Désiré Kabila était en position de force. Il s'est appuyé sur la force militaire et c'est ainsi qu'il n'y a pas eu de solution.
Alors là, vous avez comparé deux mécanismes, mécanisme endogène et mécanisme exogène.
Oui.
Alors parlons du mécanisme endogène dans l'histoire de notre pays. Et quels sont ces mécanismes qui n'ont pas marché et ceux qui ont marché? Si vous pouvez peut-être nous en faire une idée.
Bon,
voilà.
Les cas qui ont marché, les cas de la Côte de Pretoria, par exemple.
Là, c'est encore exogène. Merci beaucoup, Isaac. Alors, Franck, vous nous avez rejoint, vous êtes en Allemagne. Merci de nous avoir rejoint à ce niveau du débat. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour.
Voilà, Franck, quelle est votre contribution à ce niveau?
Oui, merci beaucoup. Il y a d'abord un problème technique, on ne sait pas vous suivre sur Internet. Alors là, je viens d'être appelé, mais je vais intervenir par rapport à la thématique que vous avez soumise au débat. Je crois que par rapport à ce que vous avez mis par écrit là, on peut dire qu'une partie de la pression peut se justifier dans la mesure où, chez nous, nous disons souvent les mêmes sales ténaves en famille. Et quand il y a des divergences de vue et que de part et d'autre, les protagonistes arrivent à se dépasser en mettant de côté leur passion et en cherchant avant tout la paix et le calme, cette alternative reste idéale. Mais nous savons aussi que de nos jours, dans la plupart des cas, il y a des petites situations qui peuvent toujours arriver entre deux groupes qui ne partagent pas le même but par rapport à un sujet brillant. Et là, souvent, il y a des ramifications politiciennes, donc il y a toujours un groupe de gens, si pas une personne, un groupe d'individus, qui arrive à instrumentaliser d'abord la thématique pour mettre, pour passer en otage certaines personnes qu'ils peuvent utiliser pour leur propre fin. Personnellement, je ne partage pas l'opinion de dire que on fait toujours recours aux autres et c'est eux qui nous créent des conflits. Non, moi je crois que nous devons d'abord nous montrer très mûrs. Quand il y a un problème entre deux groupes protagonistes, ils arrivent d'abord à se mettre ensemble, à parler, puis avoir vraiment un esprit critique de très haut niveau.
Oui, Franck, s'il vous plaît, parce que là, on va aller voir avancer. Aujourd'hui, c'est vrai, au regard de mécanismes exogènes que nous avons utilisés pour arriver à établir la paix, je crois qu'il y a quelques-uns qui ont marché et ont donné quand même des résultats escomptés. Mais au-delà de cela, nous, comme le sujet l'a dit aujourd'hui, nous évoquons les cas de mécanismes internes, donc les mécanismes endogènes, en Afrique, et particulièrement en RDC, qu'on a dû utiliser par le passé et qu'on continue à utiliser, notamment aujourd'hui avec la médiation de la CENCO, les bons offices de la CENCO. Est-ce que aujourd'hui vous partagez l'avis selon lequel, comme l'a dit par exemple le général Valérie, que la clé de la réussite de ces genre de forum ou de cette médiation, ce mode de gestion des conflits, c'est la volonté d'abord des parties de privilégier l'absolu et non leurs intérêts personnels.
Tout à fait. Vraiment tout à fait d'accord. Je voulais chuter justement à cette conclusion-là. C'est comme ça que j'ai dit au début, si les deux groupes protagonistes arrivent à se dépassionner, à mettre d'abord au centre l'intérêt de la majorité, là on peut trouver des solutions. Mais dans la mesure où un groupe ne veut pas entendre le dialogue de l'autre, la raison de l'autre, il veut seulement mettre au centre ses propres intérêts, c'est à ce moment-là que les divergences de vues sont instrumentalisées. Et quand maintenant un leader politique vient se jeter à l'intérieur, il donne encore une connotation politicienne, c'est alors que ça devient difficile. C'est comme ça, moi je disais, il faut d'abord que les Congolais, que nous soyons d'abord mûrs, pour arriver à traiter nos problèmes entre nous. Quand ça ne va pas, on peut te donner du courage pour dire à l'autre, là, ça n'a pas été.
Merci beaucoup.
Et à un certain niveau de la gestion de la chose publique, il faut aussi avoir d'abord le respect des textes, savoir respecter les gens à bas des textes, et tout le monde connaît, et qui doivent être respectés à tous les niveaux.
Merci
Mais
beaucoup.
Quand maintenant, il y a des décalages sur le respect des textes, à un certain moment, on respecte. À un autre moment, on ne respecte pas. On va recourir à tel, avec le complexe qui gangrène un peu le mental de beaucoup de gens. C'est comme ça que parfois, il y a des expatriés qui viennent s'inviter dans des conflits comme ça, et qu'est-ce que vous voulez? Quand quelqu'un d'autre vient maintenant faire l'arbitre d'un conflit qui aurait dû être réglé entre deux Congolais, celui-là ne peut l'appréhender qu'à base de ce tempérament et aussi de
on va prendre un dernier. Bienvenue, avant de retrouver notre invité. Bienvenue, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui,
bonjour à l'invité,
oui,
à tous les invités.
Ah, quelle est votre contribution à ce niveau du débat où nous partageons, nous échangeons sur le mécanisme interne de gestion des conflits qu'on a pu utiliser aussi en Afrique et particulièrement à RDC par le passé. Les uns ont marché avec un aboutissement heureux, tandis que les autres ont carrément échoué. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les critères pour vous pour un bon déroulement de cette médiation? Et quelles ont été quelles seraient par exemple les causes valables des échecs, par exemple, des médiations passées?
Bon, moi je pense que s'il y a eu échec ici à Noa, c'est à cause des intérêts personnels, puisque tout le monde parle au nom du peuple, mais en réalité, quand ils sont en train de dialoguer ou de discuter, le peuple est mis à l'écart. Ils sont là pour le partage, comme nous, présentement. Nous attendons demain et dans 3 jours trouver une solution pour le deuxième dialogue que tout le monde avait crié qu'il n'y en aura pas. Alors que le tout premier qui a fini à l'OIA, qui a même un premier ministre, je ne sais pas qui attend quoi. Alors voilà, le grand problème que nous avons aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le problème de la résolution des conflits. Nous avions les conflits avant 2001, lorsque le président Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Il a dit dans son discours qu'il avait trouvé le pays en lambeaux. Et l'accord de San City a fait qu'il y en a eu 2, 1+4, et à l'issue des concessions que le président avait faites, on a pu aller aux élections en 2006 et en 2011. Alors maintenant, il n'y a pas conflit. Il y a conflit entre les ou plusieurs partis. Le vrai problème, s'il y a conflit, c'est entre le président Kabila et sa propre conscience. Parce qu'il n'a pas pu organiser intentionnellement les élections. C'est là où nous nous trouvons. Alors, si on se précipite aujourd'hui à régler tout chose avant les 19. Donc il y a quelque chose tout autour de la date du 19 de ce mois. Alors, moi je pense que au niveau où nous sommes, la CENCO a eu la mission. Il semble que c'est le président de la République qui leur avait demandé de voir le rassemblement et allier.
Bon, lorsque... Oui, je crois que dans les soucis, bienvenue, dans les soucis de trouver quand même une large inclusivité, l'accord de la cité de l'OIA a laissé une ouverture avec la, l'article 24 aujourd'hui pour aller oui. vers ceux qui n'avaient pas participé à ce dialogue, parce que c'est un travail perfectible, oui. pour amender ou soit faire des propositions. Voilà pourquoi la CENCO, avant de retrouver les deux parties, a sorti le point de divergence et le point de convergence. Mais le vrai problème, le débat aujourd'hui, c'est oui. la médiation interne. C'est pas aujourd'hui nous avons la CENCO, qui est considérée comme un mécanisme endogène pour trouver la, la solution, concilier les deux les points de divergence. Est-ce que vous pensez que la médiation interne peut oui. marcher à une seule condition, qui est la volonté des deux parties de pouvoir se départir chacun de ses intérêts personnels, mais de privilégier la, l'absolu?
Oui, en tout cas, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et la CENCO étant une branche de la société civile apolitique, c'est rien que la CENCO qui n'est pas apolitique, qui est apolitique, puisque à la fin, vous ne trouverez pas un évêque qui cherche à devenir ministre ou quoi que ce soit. Alors, moi, je pense qu'avec la médiation interne, les choses iront mieux, à condition qu'il n'y ait pas un agenda caché. Par exemple, la CENCO peut travailler, mais sous pression d'un État étranger ou d'une puissance étrangère. Là, ça ne va pas marcher. Mais si la CENCO joue le rôle de médiateur sans autre forme d'agenda caché, là, ça ne fait que nous réduire.
Alors, la clé de réussite pour vous également, c'est la non-ingérence. Également, le manque d'interférence. Hein. S'il y a des interférences, ça risquerait d'aviser, de déranger tout. Merci beaucoup. 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à ceux qui nous ont déjà envoyé leur message.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen. Et merci à vous tous qui participez donc à ces débats sur notre page Facebook et également sur notre site. Merci. Nous revenons à vous, Monsieur Basile Poto. Vous êtes professeur docteur expert en intelligence artificielle et gestion des projets. Vous venez de suivre les uns les autres. En gros, on sait que la clé de réussite pour les uns, ça passe par la volonté de départir, de pouvoir se départir de leurs intérêts personnels et de privilégier l'absolu. Et d'autres ont insisté pour dire, mais voilà, il faut que le médiateur soit capable et être à l'auteur, c'est-à-dire avec une compétence soutenue qui doit caractériser cette médiation. Il y a la crédibilité, il y a également ce qu'il faut éviter, c'est l'interférence extérieure dans la médiation endogène. Alors, quelle est votre réaction?
Je vais intervenir en trois moments. Premier moment, en fait, le contexte dans lequel se pose le problème, la problématique de la médiation, on peut l'appeler médiation, conciliation, facilitation, ça c'est de la quincaillerie mathématique, ça arrive bien tout de même en fait. D'autant que, effectivement, le but c'est, en fait, il y a deux protagonistes et... Pour surmonter le problème, intervient une tierce personne qui est censée, qui doit, par exemple, être neutre, impartial. Donc voilà, ça c'est le premier moment. Deuxième moment, l'idée, le concept même de la médiation, conciliation, relève de l'hypothèse qui est lié à l'anthropologie philosophique, hein, qui définit l'homme comme étant un être avec. L'homme est un être social, un être qui doit faire société, qui doit vivre ensemble. On dira autrement, en fait, l'homme, en fait, d'ailleurs, c'est le gros défi pour le moment, on doit promouvoir le vivre ensemble. En fait, il y a crise pour le moment au pays, parce qu'en fait, il y a la cohésion nationale, la cohésion sociale pose problème. Il y a inégalité sociale, il y a crise politique, crise des légitimités, c'est là qui pose le problème. Voilà, ça c'est deuxième moment. Troisième moment, en fait, on ne vit pas aujourd'hui dans un monde tout à fait autarcique, on vit dans un monde globalisé. C'est à chaque société de pouvoir élaborer à l'interne des structures, des préventions, des gestions de conflits. Et on sait que, en fait, voilà, personnellement, en 2013, moi j'avais initié, en fait, donc j'arrivais en 2013 dans la foulée de ma concertation nationale. Et en échange avec des amis, enfin certains qui sont au gouvernement pour le moment, on a procédé à une analyse sociopolitique du pays. Rappelez-vous qu'à l'époque, en 2013, durant les concertations nationales, au départ, en fait, les concertations nationales étaient voulues inclusives. Moi, j'avais, en échangeant, dit, ok, d'accord, mais déjà, à l'époque, on commençait à se patouiller. Donc, le caractère réellement inclusif n'a plus été assuré. Et à telle fois qu'à l'époque, en 2016, l'Église catholique avait boycotté. L'Église catholique avait participé aux concertations nationales. Et moi, en échangeant avec mes amis, je dis, ok, d'accord, mais en fait, pour moi, en fait, il y a à l'étranger, il y a des structures qui sont là, qui sont instituées, reconnues dans la loi fondamentale, et qui permettent, en fait, en toute impartialité, de faire de manière à ce que la vie continue normalement, que la vie sociale, la vie politique,
oui, mais parce que vous parlez
perdu et perdu. Donc voilà, donc j'ai dit, ok, d'accord, voilà, la société s'appelle, dans le pays nordique, ça s'appelle un Ombudsman.
Voilà. Et parce que vous parlez de 2013, oui. Revenons un peu pour éclairer la lanterne des uns des autres, devoir de mémoire, après les concertations nationales, devant les deux chambres réunies en congrès, le chef de l'État avait même insisté pour dire le caractère obligatoire et permanent de ce processus de médiation, en instituant donc un présidium qui était composé du président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, qui devait présider ou destiner donc de fonctionnement de cette structure, qui devait garder le dialogue de manière permanente. Une très bonne idée, mais aujourd'hui, il a fallu une responsabilité citoyenne que la population puisse s'en approprier, parce que, souvenez-vous, il y a des analystes qui disent que les négociations ou encore la médiation peut provenir de la base, c'est-à-dire le besoin de se faire sentir par la base, que la base, le peuple puisse sentir vraiment on a besoin d'un dialogue. Ça pouvait donner une valeur ajoutée pour permettre à ce que ce dialogue soit permanent. On dirait qu'il y a une part des responsabilités des citoyens que nous sommes, nous, voilà, et de n'avoir pas eu le temps de s'approprier, de nous approprier de cette idée.
Je me rappelle fort bien que, effectivement, la toute première recommandation des concertations, et je paraphrase le chef de l'État, la toute première recommandation des concertations était que le président promet de mettre en place la future, le médiateur de la République. Et il dit, en attendant de comprendre ce qu'elle fait, parce qu'effectivement, l'idée venait de moi, c'est moi qui l'ai impulsé. Il dit, en attendant de comprendre ce qu'elle fait, j'ai mis en place un comité de suivi des concertations. C'est en fait une structure bicéphale, à la fois, il faut le présenter général, vous avez littéralement une structure qui, à moins que je me trompe, qui n'a jamais été fonctionnelle. Bon, il s'avère que dans la dynamique, en fait, dans le concept même du médiateur de la République, il y avait effectivement, si la structure avait été implémentée à l'époque, en toute franchise, en toute honnêteté intellectuelle, on n'en serait pas là pour le moment. La structure, le médiateur de la République, est la structure administrative, indépendante, ad hoc, idéale, pour prévenir et gérer toute forme de conflit. Et c'est pour ça qu'en fait, dans l'introduction, j'avais clairement indiqué que c'est l'outil stratégique, l'outil stratégique pour le pays, pour garantir la cohésion sociale, c'est-à-dire le vivre ensemble, la gouvernance participative. Là, je vais vous citer, c'est l'approche bottom-up, c'est la participation de la population. Et c'est la structure ad hoc pour les développements durables du pays.
Voilà. Alors, on va voir si la population accepte cette démarche du médiateur de la République. C'est vrai, une expérience qui constituerait quand même un mécanisme endogène de gestion des conflits. Faudrait-il que ces mécanismes soient permanents? Ou peut-être d'autres souhaiteraient que ça soit un peu sporadique, de manière un peu ponctuelle, qu'ils viennent au moment des crises. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, je salue l'invité, je salue les peuples congolais.
Alors, quelle est votre contribution? Est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, pour résoudre des conflits à l'interne, il va falloir avoir, disons, un mécanisme endogène, un mécanisme interne, qu'on appellerait, par exemple, le médiateur de la République, qui restera de manière un peu permanente?
Bien. En fait, j'ai attendu les gens qui ont parlé avant moi, spécialement l'invité qui est venu en passant, mais aussi mon ami Franck. En fait, il faut soulever ici une question d'ordre économique, politique, juridique, avec une base purement socio-anthropologique. Et je crois que sur ce plan-là, il est important aujourd'hui de pouvoir siffler ce débat ou placer ce débat autour des questions qui doivent être naturellement sociologiques. Pourquoi? Parce que s'il faut poser la question autour du médiateur interne dans un conflit qui se régit, il faut d'abord ici mettre en termes de responsabilité les déviations comportementales des personnes qui génèrent ou qui créent ces différents conflits. Et comme mes amis l'ont dit tout au début de cette émission, il y a une gouvernance politique qui est caractérisée par la violation des propres textes tenus par les maîtres de ces pays, et aussi de l'autre côté, l'appareil judiciaire qui ne marche plus. Et aussi, très loin, vous vous rendez compte que l'insatisfaction crée tout ce qu'on appelle ces différents conflits. Alors, la question qui se pose, oui, du management de ces différents conflits, qui est habilité en principe à donner solution entre des individus qui se battent pour des questions de terrain, des fois personnelles, je dirais aussi des fois collectives. Je pense que dans ce pays, nous sommes dans un système où il y a des personnalités importantes qui incarnent les valeurs, l'identité de notre pays. Et ici, je vais parler du chef coutumier. Je pense que le premier auditeur l'a souligné, et moi je voudrais rentrer là-dessus, puisque vous allez vous rendre compte que dans des pays qui se sont respectés, d'une manière ou d'une autre, il y a eu d'abord la prise à compte de certaines valeurs qui nous sont sociologiquement véritables. Or, lorsque vous regardez aujourd'hui, il me paraît que dans notre pays, nous sommes allés très loin pour non seulement violer nos propres valeurs et notre identité, mais nous avons importé des pratiques qui nous sont impossibles d'appliquer. Et je crois que ça, c'est un véritable problème. Nous avons parlé de la médiation sous Senko. Je vais parler aussi de Sansi qui savait que c'était une machine. Nous avons vu ce qui s'est passé pour notre pays. Et actuellement, avec un certain nombre de mécanismes qui sont mis à part par le pays, c'est grave à ce qu'a dit l'initiative du dialogue permanent. Comme venez-vous même de poser la question, est-ce qu'il faudra-t-il mettre en place un mécanisme de dialogue permanent? Mais j'ai dit oui, avec la présence du chef coutumier. Souvenez-vous que notre position à cette matière est claire. Chaque Congolais, chaque autorité tant locale, c'est pour l'État national, est obligé de maintenir la sécurité de notre pays. Et cela doit se passer par un mécanisme de dialogue permanent. Et je crois pour moi, d'une manière humble d'ailleurs, que les seules personnes qui peuvent mener des dialogues efficaces et efficients, ce sont des personnes qui incarnent nos identités, nos valeurs, qui sont les chefs coutumiers. Puisque cela nous représente, et d'ailleurs, nos affinités viennent d'eux. Et donc, j'ai dit aujourd'hui, tout ce qui doit se passer, c'est que nous devons nous mettre devant notre responsabilité. Ici, je vais appeler tous les chefs coutumiers congolais de pouvoir comprendre les véritables problèmes du Congo qui aujourd'hui créent des conflits d'unité, alors que nous sommes à même de le résoudre. Mais c'est vrai, pour que c'est terminé. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions faire un beau bilan de notre comportement. Je me dis depuis 60 à ce jour, nous avons connu des graves déviations. Nous sommes allés dans des principes de répartition inéquitable de richesses. Nous avons planté une insatisfaction populaire. Nous avons planté des chardons de criminalité. Tout ça, ce ne sont pas de nos unités, ce ne sont pas nos valeurs. Nous avons posé des actes étrangers vis-à-vis de notre société. Je crois que la médiation interne est le plus privilégié, mais cela doit se passer par des fonctions qui incarnent nos valeurs.
Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé des Bounia. Là, nous rejoignons directement Bintou, qui est à Kimpese. Bintou, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution, Bintou? Est-ce que vous partagez la vie de Sylvain qui a soutenu l'idée d'avoir une médiation de la République de manière un peu permanente?
Je pense que c'est une bonne chose, comme ça se fait aussi en Afrique du Sud, mais il va se poser un problème du choix de ces médiateurs d'âge de la République et de la conscience dont il a besoin de la part de la classe politique au pouvoir et de l'opposition. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faudrait encore attendre un peu que les gens s'entendent afin qu'on trouve un compromis qui va permettre au pays de sortir de la crise. Bon, pour revenir à la thématique du jour, je pense que la solution endogène, la solution elle doit être double. Elle doit être endogène et exogène. Endogène, c'est bien, puisque comme la médiation qui se passe actuellement avec la CENCO, la médiation locale connaît très bien les acteurs, connaît très bien les problèmes qui opposent les acteurs, et elle coûte moins cher, mais elle connaît aussi la réalité sur le terrain. Mais elle aura beaucoup d'inconvénients, elle aura beaucoup de difficultés qu'elle fera éviter. C'est par exemple, la première difficulté, c'est la mise en application des résolutions internes. Puisque généralement, s'il n'y a pas de considération vis-à-vis de ceux qui mènent ces actions-là, il n'y aura pas l'application ne va pas suivre. Il y aura l'absence de moyens pour mettre en application les résolutions. Il y aura aussi l'absence de volonté de la part des acteurs. Et surtout, étant donné que la médiation interne n'a pas de moyens de pression sur le pouvoir en place, il y aura beaucoup de difficultés pour la mise en application des résolutions qui vont sortir d'une médiation interne. Mais nous pensons que ça ne sera pas avec la médiation de la CENCO, puisqu'elle bénéficie déjà de l'appui extérieur de l'ONU, des États-Unis et de toute la communauté internationale. Nous pensons que c'est déjà une bonne chose.
Merci beaucoup. Et
après, pour terminer, je vais
rapidement
terminer
à cette fois.
Pardon?
Oui, une minute.
Alors, je voulais juste parler aussi d'un autre élément qu'il faut ajouter, c'est l'impartialité de l'armée. Il faudrait que l'armée puisse être impartiale pour que le pouvoir en place ne puisse pas compter sur elle afin de se maintenir et de ne pas
arriver les résultats. Donc, je restais aujourd'hui la difficulté, c'est le choix qu'on peut porter sur ces médiateurs. Il y a un auditeur qui avait parlé précédemment en insistant sur la crédibilité. Non seulement la compétence, mais la crédibilité aussi, parce que le médiateur doit être vraiment impartial. Sinon, déjà, au départ, c'est biaisé. La confiance n'y est plus, et puis bon, finalement, les résultats n'est pas celui escompté. Merci beaucoup, Bintou. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Amos.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Oui, en une minute, parce qu'on a plus assez de temps, et puis on va donner à Kassereka aussi, qui est à Bounia, à une minute, et puis on va conclure avec d'autres idées.
Justement, je pense que si les médiations ont toujours joué à la République démocratique du Congo, je voudrais comprendre que quand il y a médiation, on finit par arriver à l'étape de la réconciliation. Mais dans notre pays, l'erreur est que par rapport à l'étape de la réconciliation, il y a une étape qu'on appelle l'étape de la vérité. Et pour ça, cette étape, c'est là qu'on doit se dire qui a fait quoi. Et quand on arrive à l'étape de qui a fait quoi, là, la justice aussi doit faire son travail. Et c'est ça le grand problème. Quand je reviens à la médiation qu'on a eu dernièrement, les dialogues là pour construire les communes à part, les dialogues qui sont un peu courts, qui ont été menés. Là, on a dit qu'on a oublié le problème et c'est ça qui a ce dialogue apparemment échoué. Il faudrait d'abord pour tester le problème avant de passer à une autre
étape. Oui, Amos, il faut faire la part des choses. Nous parlons de la médiation endogène, et là c'était un facilitateur extérieur, donc nous ne pouvons pas faire le cours de débat donc aujourd'hui, passer beaucoup de temps par rapport à cette question. Kassereka, en 30 secondes, vous avez également la parole.
Merci beaucoup de cette parole. Je salue tous les auditeurs de la radiographie. J'ai vu votre débat et ça m'a beaucoup intéressé, mais la seule chose que je peux dire, ce n'est pas même la médiation extérieure. Ce qu'il faut dans ce pays vraiment, c'est la conscience des uns et des autres. Vous avez vu ce qui s'est passé, la France a fait le dialogue passé. Qu'est-ce qui a donné comme fruit?
Voilà, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure à Amos. Nous parlons du mécanisme endogène et ce qui se tient aujourd'hui à l'interdiocésain, c'est ça le cas. Donc, il fallait qu'on reste dans ces débats. Alors, on va conclure avec vous, notre invité, monsieur Basile Poteau, professeur docteur expert en intelligence artificielle de gestion de projet. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Donc, c'est possible que la médiation interne puisse marcher. Ben, dès lors qu'on acceptera de mettre en exergue les critères de réussite, notamment la volonté, c'est des parties des intérêts personnels et privilégier la volonté donc l'absolu, et également, disons, tenir compte de la crédibilité, l'impartialité, comme les uns l'ont dit, et à ce niveau-là qu'on peut obtenir la bonne médiation de la République et de manière permanente. En conclusion.
Voilà, en fait, de par notre effort, c'est important. Par notre, en fait, il faut une structure des médiations endogènes, internes, et qui le soit de manière pérenne. C'est possible. Et c'est, en fait, c'est ce que moi, j'ai. Enfin, pour me mettre en valeur, parce que personnellement j'avais
la difficulté pour désigner les médiateurs.
Non,
le parti, nous l'avons vu à la CENIC en tant qu'organe citoyen,
d'appui
à la démocratie, on met du temps pour désigner des gens.
Non, le médiateur de la République
qui va les nommer
professionnellement, le médiateur de la République n'est pas un individu. C'est une structure d'appui pérenne à la cohésion sociale, c'est-à-dire vivre ensemble.
Alors, vous êtes composé de qui?
C'est une structure comme...
Parce que c'est vous qui proposez ça.
C'est une structure d'appui, une structure qui aura du personnel. En fait, il y aura le médiateur et il y aura tout un corps des médiateurs.
Les politiques, les forces vives de la nation.
Ça, c'est le gros handicap à éviter. Évitant de politiser l'engagement citoyen.
Mais qui fera partie de cette structure?
Ce sont des gens formés qui ont l'expertise appropriée. Il y aura le médiateur et qui va travailler...
Qui va les recruter?
Le médiateur, en fait...
Il sera nommé par qui?
Le médiateur dans le parcours.
Voilà, le débat est ouvert. Merci beaucoup, monsieur Basile Poteau. Le débat se poursuit sur notre page Facebook et aussi sur www.radiocapi.net. Merci à Basile Poteau, professeur docteur expert en intelligence artificielle et gestion des projets. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Claude Tiala était à la mise en onde. Pierre Lamégie à la réalisation et J.R. Lungembo a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Martin et Sébou Jangré. À très bientôt.